et il s'approchera de vous. Amen. Ça va, c'est pas trop long? Mais rien que ce verset, si on le vivait, vraiment, on l'a déjà vécu, je crois, pour la plupart, mais si on le revivait ce matin particulièrement, est-ce que ça ferait pas quelque chose de profond et de vivant? Et je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions le vivre. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin dans cette réalité, qu'on puisse lire cet exemple de cet homme qui s'est approché de Dieu et que Dieu s'est approché de lui. Dans Matthieu chapitre 8, on connaît tous l'histoire de ce lépreux, alors que Jésus vient de donner un enseignement sur la montagne. Il a donné toutes ces paroles merveilleuses. Il descend de la montagne et alors qu'il y a une grande foule qui le suit, une foule qui est là autour de lui, il y a un homme qui va être béni particulièrement. Pourtant, il y a une foule tout entière qui est là. Mais un homme s'est approché vraiment de Dieu. Un homme s'est approché de Jésus et Jésus s'est approché de lui. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Vous avez remarqué la suite? Afin que cela leur serve de témoignage. Des fois, on cherche des arguments, on cherche des choses à pouvoir dire aux personnes qui nous entourent pour pouvoir leur expliquer combien Dieu est bon et combien Dieu est plein d'amour. Mais le simple fait d'être touché dans la présence de Dieu de manière personnelle et de pouvoir raconter cette expérience à quelqu'un, c'est un témoignage. Afin que cela serve de témoignage. En tout cas, il y a une réalité qui est là, c'est qu'on peut s'approcher de Dieu et Dieu va s'approcher de nous. Mais est-ce que toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus se sont vues forcément approchées par Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus, est-ce que toutes elles ont été bénies? J'ai étudié, je vous avoue, hein, j'ai étudié dans l'évangile de Matthieu seulement, parce qu'on pourrait lire tous les évangiles, mais toutes les fois où il y a des gens qui se sont approchés de Jésus. Et on remarque, la première personne qui s'approche de Jésus, vous savez qui c'était? C'était le tentateur. Et pourquoi il s'approchait? Pour l'éprouver. Parce qu'on pouvait s'approcher du Seigneur pour toutes sortes de raisons différentes. Et le diable, lui, s'est approché pour tenter le Seigneur à 3 reprises, mais il a tenu bon. Et quand on regarde un petit peu les évangiles, on se rend compte qu'il y en a qui sont les dignes fils de leur père. Les pharisiens se sont approchés. Et Jésus a dit, vous êtes les fils du diable, carrément. Il leur a dit cette expression-là. Votre père, c'est le diable. Et quand il s'approchait de Jésus, c'était pourquoi? Pour l'éprouver aussi. Et la question qu'on se pose pour pouvoir s'approcher de Jésus et que Jésus s'approche de nous, il faut qu'il y ait une bonne intention, il faut qu'il y ait une bonne motivation. La question qui se pose, c'est quelles sont les motivations de mon cœur quand je m'approche du Seigneur? Vous savez, quand le sacrificateur, le grand sacrificateur dans la loi juive devait s'approcher de Dieu dans le lieu très saint, il y avait tout un processus qui était là. C'était un jour bien précis dans l'année, il devait porter une tenue bien précise et il devait faire plusieurs sacrifices, asperger le propitiatoire, l'autel, etc. Il devait suivre les instructions à la lettre et vous savez ce qui en dépendait? Il est dit littéralement « afin qu'il ne meure pas ». Ça, c'était la loi juive. Et vous allez me dire, oui, mais ça c'est la loi, maintenant on est sous la grâce. Alléluia, on est libre. Libre de nos chaînes, on peut s'approcher. Et c'est vrai, d'une certaine manière, on n'a plus à faire toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment? En tout cas, je crois qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment, mais que si on veut que Dieu s'approche de nous en retour, il faut s'approcher de la bonne manière. De la bonne façon. Il y a une façon qui plaît à Dieu. Et l'image que je voudrais vous donner, c'est que des fois, c'est comme si on essayait de saisir avec l'ombre de notre main, on essaye de saisir un objet. C'est pas possible. Vous avez déjà essayé avec l'ombre de votre main? Je sais pas si on arrive à le voir là. Mais si vous projetez une lumière qui a l'ombre et que vous essayez d'attraper quoi que ce soit, le micro, une Bible, vous allez jamais pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que c'est dans deux domaines bien différents. La main, elle est en 3D et l'ombre, c'est juste un reflet, une image. Et des fois, d'un point de vue physique, on s'approche de Dieu, Mais d'un point de vue spirituel, on ne s'en approche pas. Et quand on regarde l'image de ce, l'exemple de ce lépreux, on se rend compte que lui, il a fait comme il fallait. Il s'est approché de Dieu autant physiquement que spirituellement. Et le résultat, c'est qu'il a amené, il a reçu de Dieu une bénédiction. Lui qui était couvert de lèpre, il a été totalement purifié. Ce matin, je ne parle pas de la lèpre physique, mais je parle de la lèpre spirituelle. Quelqu'un n'a-t-il pas besoin que Dieu vienne purifier son cœur? Vous savez, Jésus, ça lui a demandé beaucoup d'efforts pour purifier cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste touché. Bien sûr, on sait que si c'est possible, c'est aussi parce qu'il y a eu la croix un jour. S'il savait, Jésus, qu'il allait mourir à la croix, il avait la puissance de guérir parce qu'il y avait déjà cette réalité dans son esprit. Mais nous qui sommes maintenant 2000 ans après cet événement, nous savons que dans la puissance de ce sacrifice merveilleux à la croix, les blessures et le sang qui a coulé de ces blessures, nous pouvons avoir la guérison. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous donne un rendez-vous pour que nous puissions être touchés. Nous puissions être interpellés par sa parole. Mais voilà quelles sont nos motivations. On peut s'approcher de Dieu pour toutes sortes de motivations. On peut s'approcher de Dieu pour remettre en question ce qu'il nous est dit. On peut s'approcher de Dieu parce que on veut lever le poing contre Dieu. Ah, on voit tellement de personnes des fois qui s'approchent et qui disent « Ah, mais s'il y avait un Dieu, alors pourquoi il y a ceci ou cela ?» Je reviens des camps des migrants à Calais, à Grande-Synthe. Et c'est sûr que si on regarde de manière humaine, on peut se dire, et on entend même des gens dire « Mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il laisse faire de telles choses ?» Mais c'est pas comme ça que la solution va se résoudre. Est-ce que parce qu'il y a des incendies de forêt, ça veut dire qu'il n'y a pas d'océan sur la Terre? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas parce qu'il y a des incendies que ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Et c'est pas parce qu'il y a le mal sur la Terre que ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Au contraire, si on mettait Dieu à la première place dans nos vies, alors il n'y aurait pas d'incendie de forêt dans nos cœurs. Dieu est cette eau vive qui veut apaiser, atténuer toutes ces souffrances. Mais les hommes n'en veulent pas, le rejettent. Et le résultat, c'est des choses comme ça qui arrivent. Mais le Seigneur est celui qui est capable de nous remplir. Et si l'on s'approche de lui avec sincérité, avec vérité, remplir notre cœur, nous remplir de son amour pour que cet amour se déverse autour de nous. En tout cas, il y a des pièges à éviter. Il y a des choses dans nos cœurs qu'il faut ne pas tolérer parce que on peut se laisser tromper et ne pas s'approcher de Dieu de la manière correcte. Je vous donne cet exemple. Il y avait des gens qui étaient dans le temple. Et le temple, ça symbolise la présence de Dieu. Et puis, malgré leur présence dans le temple, ça, on pourrait dire qu'ils étaient dans l'église, hein, pour prendre un exemple d'aujourd'hui, leur cœur était loin de Dieu. C'était encore des scribes et des pharisiens qui étaient dans le temple. Et puis, il y avait d'autres personnes qui se sont approchées du Seigneur Jésus, c'était des boiteux, c'était des aveugles, c'était toutes sortes de personnes que la vie avait blessées et qui se sont approchées eux par contre. Pas, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple, ils se sont approchés du Seigneur. Et le résultat, c'est que le Seigneur les a guéris. Et on peut se le faire piéger par le fait d'être de manière physique et matérielle dans un endroit où on a l'impression qu'on s'approche de Dieu, de venir dans une église, ou de faire des actes physiques. Vous savez qu'on aime beaucoup lever les mains, et on a le droit de le faire. On a le droit de se lever, on a le droit de taper des mains, etc. Mais est-ce que parce qu'on fait cela, on s'approche de Dieu forcément? Vous voyez, on peut se faire piéger en ayant une espèce d'habitude de lever les mains vers Dieu, alors qu'en fait, dans nos cœurs, on ne tend pas notre main vers le Seigneur. Un exemple flagrant, c'est quand Judas, dans le jardin des Oliviers, il vient vers le Seigneur. La Bible nous dit qu'il s'approche. Judas s'approche de Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il a saisi dans ses bras. C'est merveilleux de pouvoir embrasser le Seigneur. Je crois que c'est quelque chose que tous les chrétiens sur la terre voudraient faire. Je crois que quand on sera dans le ciel, on aura l'occasion de le faire. Mais cet homme, il a saisi le Seigneur dans ses bras. Vous savez pourquoi? Pour le trahir, pour dire c'est lui qu'il faut saisir. Il avait beau être le plus près qu'on peut être du Seigneur de manière physique, il était loin, il n'avait jamais été aussi loin dans sa vie de Dieu à ce moment-là. Et le danger, il est là, parce que souvent on nous dit « Ah, mais moi, si j'avais vécu à l'époque du Seigneur Jésus, ça aurait été totalement différent, j'aurais pu m'approcher de lui, j'aurais pu vivre quelque chose de particulier avec lui. » Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le cas, puisqu'on a tous ces exemples de personnes qui étaient de manière physique avec le Seigneur et qui sont passées à côté. Et maintenant que le Seigneur est dans le ciel, mais qu'il est présent par son esprit, il désire par contre que nous puissions nous approcher de lui. Et je crois que si nous le faisons de manière correcte, si nous le faisons sans dépendre de forcément de toutes ces attitudes physiques, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les faire, mais en tout cas, on veut les faire de la bonne manière. Alors, si on choisit de prosterner notre cœur en même temps qu'on se prosterne physiquement, si on choisit de lever notre cœur en même temps qu'on élève nos mains, eh bien alors le Seigneur va s'approcher de nous. Des fois, on nous dit, ah oui, mais je vais pouvoir m'approcher de Dieu seulement si j'ai des bonnes circonstances, s'il y a les circonstances favorables, s'il n'y a pas des épreuves, si tout va bien dans ma vie, si mon compte en banque est bien rempli, alors je vais pouvoir m'approcher du Seigneur. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on peut s'approcher de Dieu? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est souvent quand on traverse des épreuves qu'on prend le temps enfin de crier vers Dieu. C'est souvent quand on est au plus bas, quand on est attentif à ce que Dieu veut nous dire, à son amour. Malheureusement, vous savez très bien que le Seigneur voudrait nous bénir, le premier à vouloir nous bénir. Même s'il est dit que « approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous », on sait très bien que celui qui a fait le premier pas depuis longtemps, depuis 2000 ans, c'est Jésus qui est venu sur la terre, qui a déjà commencé à s'approcher. Mais il veut que nous puissions rentrer dans une réalité où nous sommes touchés dans sa présence. Le jeune homme riche, vous savez, qu'est-ce qu'il avait comme condition? Et il avait toutes les conditions favorables. Tous les voyants, ils étaient ouverts. Il allait vers le Seigneur. Il était un homme respecté. Personne n'allait le critiquer s'il allait toucher le Seigneur, contrairement aux lépreux. Il avait tous les voyants ouverts pour aller s'approcher du Seigneur. Il est même venu en une attitude physique. Il est venu en courant. C'est merveilleux si les gens pouvaient venir à l'église en courant. Ça vous plairait pas? Ça nous ferait peur un petit peu, on se dirait qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, cet homme-là, il court vers le Seigneur. Quand il arrive devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne à genoux devant le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il repart tout triste, parce qu'il avait des grandes richesses et il voulait pas laisser Dieu être en premier par rapport à ses richesses. Jésus lui demandait pas de tout abandonner, de devenir pauvre. Mais il lui demandait de le mettre en premier dans sa vie, tout simplement. Et cet homme qui a fait de telles belles déclarations, bon maître, qui avait de bonnes motivations, c'était quoi sa motivation, cet homme riche? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous aimeriez pas que les gens qui sont autour de vous, quand vous voulez parler de l'évangile, c'est la question qu'ils vous posent, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et puis cet homme, malgré ses bonnes intentions, malgré ses bonnes attitudes, il était loin de Dieu, parce qu'il avait laissé quelque chose, mettre un barrage dans sa vie. Et vous savez, il suffit de pas grand-chose pour que Dieu ne puisse plus s'approcher de nous. Il suffit de pas grand-chose, mais un péché qu'on tolère dans notre vie, et qu'on laisse là, et qu'on refuse de toucher surtout, surtout, dites-moi tout ce que je dois faire, mais ne touchez pas à ça. Eh bien, ça suffit pour que Dieu ne s'approche pas de nous et que nous ne puissions pas être bénis. Cet homme qui a rencontré Jésus-Christ en personne est reparti tout triste. Les disciples qui étaient dans la tempête, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils voient le vent, ils voient la mer qui remue, ils s'accrochent au bord comme ça. J'étais dans l'avion et vous savez, dans l'avion, on voit vite les personnes qui ont la crainte du décollage ou de l'atterrissage. On les voit, c'est facile. Il y en a une qui était comme ça, l'autre qui était comme ça, qui se tenait tout ce qu'il pouvait. Il y en a un qui était à côté de moi et presque qui me tenait le bras. Et on voit ceux qui sont inquiets et on voit ceux qui sont pleins de confiance. Moi, j'étais plein de confiance, j'ai dit Seigneur. Après tout, si l'avion même se scratch, j'ai pensé à ça, hein. Si l'avion se scratch, ben, je sais où je vais, c'est pas grave. Ça veut dire que toi, tu auras prévu cela, mais peu importe. Je pensais plus à ma famille. Si ça arrivait, je disais Seigneur, pourvois à leurs besoins. Mais je dis bon, ben, après tout, tu es celui qui garde notre départ, notre arrivée. Je te fais confiance éternelle. Et j'étais là, mais ça, je trouvais un petit peu drôle de voir les réactions des gens dans l'avion. Et ces personnes, ils étaient là dans la tempête, et je crois qu'ils étaient un petit peu pareils. On peut pas en vouloir à ses disciples. C'était pourtant les disciples, ils connaissaient le Seigneur. Mais ils étaient là, ils s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient, ils voyaient que rien ne servait, malgré leur capacité, ça marchait pas, la tempête était là, les éléments se déchaînent, des fois les épreuves se déchaînent sur nos vies. Et malgré toutes leurs incapacités et leurs défaillances, à un moment donné, ils se sont approchés du Seigneur. Seigneur, nous périssons. Jésus leur reproche leur manque de foi, bien sûr, Mais ils se sont approchés et Jésus a apaisé la tempête. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Vous savez, des fois, dans l'épreuve, on fait un petit peu n'importe quoi. On ne sait plus trop quoi penser. On est un petit peu bousculé. On ne sait pas trop comment prier au Seigneur. On prie comme on peut. Mais on s'approche avec vérité. Et le Seigneur bénit. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important malgré tout? De s'approcher et que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur, avec une parole, a calmé la tempête. Quelqu'un n'a-t-il pas besoin d'entendre une parole qui va venir calmer sa tempête ce matin? Oh, je crois que c'est possible. Par la foi, si nous laissons la parole de Dieu faire son effet dans nos cœurs, nous pouvons entendre cette parole qui va apporter la consolation, qui va apporter la guérison, qui va apporter tout ce dont on a besoin. La femme à la perte de sang était au milieu d'une foule qui entourait, qui pressait le Seigneur. Toute la foule était près du Seigneur, de manière physique. Mais la seule qui est repartie avec une bénédiction, une guérison dans son corps, un renouvellement de sa vitalité, c'était cette femme qui s'est approchée avec foi. Et le Seigneur nous regarde ce matin avec quel sentiment vous vous approchez, avec quelle disposition de cœur vous vous approchez de lui. Cette femme qui s'est approchée avec foi est repartie totalement libérée. Qui ce matin a besoin de s'approcher et de toucher le bord du vêtement du Seigneur et de retirer cette grâce et cette vie qui coule? Et que cette vie du Seigneur qui coule puisse couler dans votre cœur à vous. Vous savez, on peut chanter de beaux cantiques, crier Alléluia et faire même de belles prières émouvantes et puis rester loin de Dieu. Parce que tout ça, c'est visible, c'est physique. Mais ça ne traduit pas forcément ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu veut qu'on chante, bien sûr, Alléluia. Dieu veut qu'on le loue, qu'on le célèbre. Mais que ce soit quelque chose qui fasse écho à ce qu'il se passe au fond de notre âme. Parce que si on veut que Dieu s'approche de nous, il faut que nous soyons vrais. Il faut que les sentiments de nos cœurs soient vrais. On peut revenir dans Jacques un instant, dans Jacques chapitre 4. Et regardez le contexte de ce passage. Regardez dans quel contexte Jacques a pu dire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est intéressant de regarder ce qu'il est dit juste autour. Quelle est cette manière de s'approcher qui va permettre que Dieu s'approche de nous et qu'il y ait une différence dans notre vie? Au verset 7, on le voit. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La soumission. Commencez par la soumission. Est-ce que c'est facile de se soumettre? Est-ce que c'est facile de se soumettre les uns aux autres? Ah, c'est un combat, hein. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup d'humilité. Mais là, c'est soumettez-vous à Dieu. C'est peut-être un peu plus facile de se soumettre à Dieu parce qu'il est parfait. Et quand on y réfléchit, on se dit que non, on n'est pas si parfait que ça. Et si le Seigneur nous parle et nous reprend dans sa parole, on veut se soumettre parce qu'on sait qu'il a quelque chose de bien pour nous. Mais voilà le contexte. Vous voulez vous approcher de Dieu de la bonne manière? Soumettez-vous à Dieu. Croyez que la parole de Dieu, elle est meilleure que vos meilleurs arguments à vous, que vos raisonnements. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est cette parole qui sanctifie, qui libère, qui guérit. Deuxième chose, résistez au diable et il fuira loin de vous. On entend malheureusement tellement de gens qui ne résistent pas, tout simplement, qui se laissent appâter. Moi, j'aime bien regarder, mon épouse, elle n'aime pas, mais j'aime bien regarder le documentaire animalier. Vous savez, c'est sûr, il y a un peu de sang. Quand le lion, il commence à attraper la gazelle qui s'enfuyait, c'est sûr que c'est sanglant, mais c'est tellement une bonne image de ce qui se passe dans le domaine spirituel. C'est pas le sang qui m'attire, hein, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Mais c'est de réaliser... Oui, c'est l'Afrique aussi qui m'a marqué, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que le lion, il est là, il est aux aguets, et il attend une seule chose, le lion. Ou les lionnes. Ils attendent qu'il y ait une brebis qui s'écarte. Enfin, pas une brebis, une gazelle. Ou un zébu. Ou un petit animal qui est là, qui soit isolé tout seul. Qui croit qu'il va s'en sortir par lui-même. La force de la gazelle et de tous ces animaux, du zèbre, leur force, c'est de rester en groupe, c'est de rester unis. Parce que là, ils peuvent rien faire, les lions. Même les plus forts des lions ne peuvent rien faire face à tout un troupeau. Mais dès qu'il y en a un qui s'écarte. C'est là qu'ils vont l'attaquer. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons résister. Et résister, des fois, ça veut dire je veux m'accrocher à mes frères et sœurs. Je veux rester avec eux. J'ai plus la force de tenir par moi-même. Je sais que je baisse les bras si je considère ma propre vie. Je n'ai plus envie de rien faire. Mais je sais qu'en venant avec mes frères et sœurs, je vais être bien dans la présence de Dieu. Le Seigneur va pouvoir me parler par l'un ou par l'autre. Je vais recevoir une tape amicale sur l'épaule. Il y en a un qui va prier avec moi. Quelqu'un va me donner une parole d'encouragement. Peu importe la façon dont ça se fait. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une force dans le fait de rester avec mes frères et sœurs. Regardez au verset 8, la suite. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a un contexte de repentance, un contexte de prendre des décisions fortes, ne pas rester des hommes ou des familles irrésolues, mais des personnes qui se résolvent à marcher avec le Seigneur. Vous savez, on entend souvent cette phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions, jamais réalisées. C'est vrai, les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, il faut des décisions fermes, des résolutions dans nos vies. Je veux me résoudre à marcher avec le Seigneur. Peu importe ce qui se passe, peu importe la société, si ça bouge dans tous les sens, je veux me résoudre à le suivre, non pas parce que je suis obligé, parce que je sais que c'est bon. Parce que je connais l'amour de mon Dieu, je connais la grâce de mon Dieu, je connais la paix de mon Dieu. J'ai tellement goûté à tout cela que je sais que peu importe les circonstances, si je me résous à le suivre, il sera toujours là pour me faire du bien. Il sera toujours là avec moi. Et regardez au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Vous voulez que Dieu s'approche de vous? Eh bien regardez, c'est tellement simple. Toutes ces choses doivent être dans notre cœur. L'humilité, la repentance, la soumission. Tout cela, ce sont des choses qui attirent le regard de Dieu. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu regarde sur toute la terre, les yeux de Dieu se posent et parcourent toute la terre. Mais ils sont attirés par ce genre de comportement, l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oh, c'est tellement mieux d'être élevé par le Seigneur que par les hommes. Vous savez que tellement de stars reçoivent la gloire, l'honneur des hommes. Et combien finissent dans des situations tellement difficiles. Combien même se donnent fin à leur vie. Parce que pour toutes sortes de raisons. Mais quand Dieu nous élève, c'est différent. Parce que c'est fait dans la douceur, c'est fait dans l'amour. Et c'est fait pour sa gloire surtout. Moi, j'ai été interpellé aussi par le soin avec lequel les photographes y prennent les oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Mais des fois, ils s'approchent des oiseaux qu'ils veulent prendre en photo. Ils s'approchent doucement, millimètre après millimètre. Ils évitent de faire le moindre geste brusque pour pas que l'oiseau s'enfuit. Ils restent immobiles pendant des heures pour qu'il y ait un climat de confiance. Et il y a tout ça qui se passe pour qu'ils puissent prendre juste une photo d'un oiseau. Qu'est-ce que c'est une photo d'un oiseau? Et pourtant, ces hommes sont prêts à faire ça. Et je réfléchissais, je dis, mais est-ce que moi je suis prêt à m'approcher de Dieu avec ce soin-là, cette délicatesse? Ça veut pas dire rester immobile dans ma chambre pendant des heures, c'est pas ça. Mais cette délicatesse de chercher la présence de Dieu. Comme Dieu le demande, pour ne pas effaroucher la colombe du Saint-Esprit. Vous savez, si le Saint-Esprit a été représenté comme une colombe, c'est qu'il y a cette douceur et cette délicatesse à respecter, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des choses qui attristent l'Esprit de Dieu? Et comme une colombe, il s'envole. Et je dois prendre soin de m'approcher de la bonne manière. Avec cette douceur. Alors je voudrais juste prendre trois versets dans le livre des Hébreux qui nous montrent encore ces bonnes dispositions. Hébreux chapitre 4 verset 16, on connaît ces passages. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. L'assurance dont il est question là, c'est pas les assurances que l'on paye tous les mois. L'assurance dont il est question là, c'est le fait de parler ouvertement. C'est cette liberté de parole, c'est le fait de déverser ce qui est pesant sur notre cœur, c'est le fait de ne rien cacher, c'est le fait de pouvoir s'exprimer en toute liberté. L'assurance de ne pas m'y être dehors, de ne pas être condamné, de ne pas être méprisé, mais d'être compris, aimé et repris avec douceur. Approchons-nous avec cette assurance-là. Je prends souvent cet exemple. Si vous savez qu'une personne est médisante, que toutes les paroles que vous allez lui dire, elle va les retourner contre vous et les transformer, est-ce que vous allez vous approcher avec assurance de cette personne ? Vous êtes d'accord que c'est pas du tout le cas ? Si vous savez que c'est une personne médisante, vous allez essayer de filtrer les paroles que vous dites, le dire le minimum. Mais quand on s'approche du Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut s'approcher avec assurance. L'assurance qu'on ne sera jamais rejeté. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit l'Éternel. L'assurance de pouvoir être écouté. L'assurance de pouvoir être compris. Qui mieux que Dieu peut nous comprendre ? Même des fois, notre conjoint ne peut pas nous comprendre parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas vécues, qui se passent que dans notre cœur. Celui qui pourra nous comprendre parfaitement, c'est le Seigneur. Approchons-nous avec assurance. Au chapitre 10, au verset 22, il est dit aussi ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sincère, ça veut dire véritable, ça veut dire authentique, sans contrefaçon, sans superficialité, sans hypocrisie. Les adorateurs que le Père demande, ce sont des adorateurs sincères, des vrais adorateurs. C'est le même mot, des adorateurs en esprit, en vérité. Et je pensais à cet exemple. Imaginez que vous achetez la plus belle voiture du monde. Alors j'ai pris un exemple, la Lamborghini Veneno Roadster à 3,3 millions d'euros. Bon, je sais que tout le monde peut se la payer. Hein ? Et puis vous ouvrez le capot, vous dites, bon, avec une voiture à 3 millions d'euros, quand même, il doit y avoir des chevaux sous le capot. Et vous ouvrez, vous voyez un moteur de 2 chevaux. Qu'est-ce que vous allez dire ? Remboursé. Vous allez dire, on m'a trompé. C'est de la contrefaçon. Mais est-ce que c'est pas ce qui se passe quand on soigne l'apparence ? Quand on s'approche de Dieu, non pas avec ce cœur sincère qu'il demande, mais qu'on s'approche de Dieu de manière superficielle. C'est exactement la même chose. Nous sommes de merveilleuses machines à plus que 3,3 millions d'euros. Nous sommes de merveilleuses créatures que le Seigneur a payées au prix de son sang à la croix pour nous racheter. Quel dommage si nous ne nous approchons pas avec un cœur sincère. Si dans notre cœur, il y a un moteur de 2 chevaux au lieu d'avoir ce beau moteur qui plaît au Seigneur, ce cœur qui va être plein de ses bonnes dispositions. Et approchons-nous d'un cœur sincère, en laissant notre cœur être purifié d'une mauvaise conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur votre conscience ce matin ? Vous savez, on est dans un monde qui nous fait dire que peu importe ce qui se passe dans notre conscience, c'est pas grave. On excuse tout, par toutes sortes de raisons, la psychologie, le contexte familial, on excuse tout. Et c'est vrai qu'il y a une réalité derrière. Il y a des choses qu'on a vécues dans notre passé qui peuvent faire en sorte qu'il y a des attitudes qui se passent en nous aujourd'hui. Mais ça excuse pas tout devant Dieu. La Bible nous demande de purifier nos cœurs de cette mauvaise conscience. Comment est-ce que c'est possible ? Simplement en se repentant. Seigneur, tu vois, il y a cette chose qui pèse sur mon cœur. Il y a cette chose qui est là, qui est comme un fardeau, je te la porte. C'est comme essayer de nettoyer sa maison de fond en comble parce qu'on voit des taches partout, et de nettoyer les murs, de nettoyer les carreaux, de nettoyer le sol, de passer l'aspirateur de tous les côtés, les toiles d'araignée, tout ce que vous voulez, même le grenier, on soulève les plaques, on va nettoyer tout ça parce qu'on voit des taches partout, et puis on s'aperçoit que c'est sur nos lunettes que les taches elles sont. Tout ce travail servi à rien, on s'est épuisé pour rien, parce qu'en fait il fallait nettoyer juste les carreaux des lunettes. Alors on rigole parce qu'on se dit, mais non, ça arrive pas ça. Mais ça, combien de fois ça arrive de manière spirituelle ? On voit des gens qui essayent de faire toutes sortes de bonnes choses. J'étais sur le camp à Grande-Sainte, j'ai vu des personnes. C'est merveilleux de voir quand même qu'il y a des personnes dans le monde qui sont touchées par ce qui se passe. Mais j'ai vu des personnes qui allaient sur les camps avec le désir d'aider ces personnes. Et vous savez ce qu'ils leur donnaient à ces migrants ? C'était des cigarettes. Et les 3 personnes que j'ai croisées qui étaient d'une association que je citerai pas, ils étaient les 3 avec les cigarettes dans la bouche. Et voilà ce qu'ils allaient apporter comme aide aux migrants. Ils leur donnaient des cigarettes. Et je me suis dit, mince, quel dommage que des personnes qui eux-mêmes sont pas remplies de cette paix-là aillent sur des camps et partagent ce genre de choses au lieu de régler d'abord dans leur propre vie ce qui ne va pas. Je remets pas en question leurs bonnes intentions par rapport à l'aide qu'ils veulent apporter, mais je crois qu'il y a tellement d'autres choses. Et des fois, on est là à nettoyer tout sauf ce que le Seigneur veut que nous nettoyons. Et la petite chose qui est là devant notre œil et qui nous masque tout, Jésus a dit, toi qui vois la paille dans la vue de ton voisin, fais attention à la poutre qui est dans le tien. Je termine avec ce verset. Hébreux 11, verset 6, on le connaît bien. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si nous voulons nous approcher de Dieu et que Dieu s'approche de nous, il faut qu'il y ait cette part de foi. Quand on regarde l'exemple de ce lépreux, ce qui est merveilleux dans cette histoire, ce qui m'a touché, ce qui m'a interpellé dans l'histoire du lépreux, qui s'est approché du Seigneur, c'est qu'il s'est approché du Seigneur autant physiquement que spirituellement. Quand on regarde, il était impur autant à l'extérieur dans son corps à cause de la lèpre que dans son cœur à cause du péché. Il était en même temps à genoux devant le Seigneur, mais son cœur aussi était soumis. Sa prière était là, si tu le veux, Seigneur. C'est pas ce que moi j'ai envie, mais c'est toi, Seigneur, ce que tu as prononcé sur ma vie. Ta volonté, Seigneur, c'est ça que je veux connaître. Si tu le veux. Il y avait cette soumission, cette humilité. Oui, il était à genoux, mais il y avait tout ça dans son cœur aussi. Et c'est ça qui a fait que le Seigneur a pu intervenir. Et quel était son motif? Il voulait juste être guéri, touché par Dieu. Oh, je crois que c'est le meilleur des motifs ce matin. Si vous voulez vous approcher de Dieu et que Dieu s'approche de vous, dites, Seigneur, je veux être touché par toi. Je veux être guéri, je veux être soulagé de mes fardeaux. Je veux, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Le contexte, est-ce qu'il était favorable pour cet homme? Oh là là, s'il y en a bien un pour qui c'était pas favorable, c'était lui. Hein, parce qu'il méritait la mort par rapport à ce qu'il faisait. Mais il avait réalisé que c'était là sa seule chance. N'attendez pas d'être dans un bon contexte. Des fois, on entend des gens qui disent « Moi, je vais me faire baptiser quand je serai parfait. » Eh bien, mon ami, tu peux attendre un bon moment. Parce qu'on ne sera jamais parfait ici-bas. C'est que dans le ciel qu'on sera parfait. Mais dès à présent, approche-toi du Seigneur. Peu importe le contexte. Et laisse le Seigneur te toucher de sa main. Prions le Seigneur un instant. On va aussi réfléchir à cette réalité que si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est parce que nous avons eu ce sourd vers un sacrificateur qui est descendu du ciel. Jésus a donné sa vie sur la croix. Son sang a coulé, son corps a été brisé. Et si nous pouvons nous approcher, c'est à cause de ce moment merveilleux où le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme, est venu sur la terre mourir pour le péché de ses créatures. Si nous pouvons ce matin être touchés par la grâce de Dieu de manière particulière, si nous pouvons de manière spirituelle être touchés par la main de Dieu, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Si nous pouvons être guéris, si nous pouvons être fortifiés, si nous pouvons avoir le cœur enflammé tout à nouveau comme au premier jour, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Laissons l'Esprit de Dieu travailler notre cœur. Laissons l'Esprit de Dieu parler à notre cœur maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qui est là sur notre conscience? Oh, combien Dieu voudrait s'approcher de nous ce matin. Combien Dieu voudrait toucher chacune de nos vies en particulier. Celui qui connaît le mieux nos vies, c'est bien Dieu. Mais il sait aussi qu'il y a telle ou telle chose dans notre cœur qui est là. Cette affaire de non-pardon peut-être. Ce péché qui n'est pas réglé devant sa face. C'est le moment, là où on est, dans le secret de notre cœur. C'est le moment de s'agenouiller, de dire « Seigneur, oui, purifie ma conscience, purifie mon âme éternelle. Je veux m'approcher de toi et je veux être touché par toi. Seigneur, je te bénis pour ta parole. » qui nous rappelle cette réalité que tu nous as dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Tu as promis que tu t'approcherais de nous, Éternel. Aussi, nous voulons venir devant toi. Et nous voulons, Seigneur, qu'il y ait ces bonnes dispositions dans nos cœurs. Que dans nos cœurs, il y ait ces choses qui attirent ton regard maintenant, Seigneur, pas dans 5 jours, mais maintenant, dans ces instants, alors que nous réglons les choses dans notre cœur, alors que nous nous repentons, alors que, Seigneur, nous soumettons à ta parole malgré les difficultés, alors que nous choisissons d'être fidèles, nous nous résolvons, Seigneur, à être fidèles malgré les difficultés, malgré les épreuves. Nous croyons que Par la foi, tu t'approches de nous. Ô Seigneur, dans ces moments, que ta grâce, que ta main bénissante, que Seigneur, ton onction puisse toucher chacun des cœurs. Tu connais mes frères et sœurs selon leurs besoins. Tu sais, Seigneur, ce par quoi ils passent. Ô Seigneur, mais tu sais tellement, tellement bien ce qu'il nous faut. Aussi, Seigneur, c'est dans la confiance, c'est dans l'assurance que nous nous approchons de toi. Amen.